Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'Agité du local. Nous sommes aujourd'hui le lundi 22 novembre, c'est parti pour une nouvelle semaine d'émissions autour de l'actualité mayonnaise et on va parler aujourd'hui du rapport du Secours catholique qui est sorti il y a quelques jours, avec notamment, vous entendrez le témoignage d'une personne qui justement est accompagnée par l'association et comment elle gère le quotidien. Je suis aussi en studio avec Jean-Philippe Goulet, un auteur mayennais qui sort... Allez, on est vraiment pile dans l'actu puisque c'était il y a une semaine son nouveau livre intitulé « Le premier Cyrénien, l'histoire du peuple des océans ». On verra justement de quoi parle ce livre et puis on va évidemment s'intéresser à son auteur, qu'est-ce qui l'a poussé à écrire et puis un petit peu comment il travaille. On va parler de tout ça, ça ce sera vraiment le cœur de l'interview. Et puis, petit changement de programme par rapport aux chroniques. Exceptionnellement, pour ce lundi, on va passer ce lundi donc une chronique de notre programme, de nos cycles de reportages avec les radios associatives des Pays de la Loire, Pensée Locale, qui nous emmène aujourd'hui du côté de la Loire-Atlantique avec l'initiative Panier Presqu'île. Mais d'abord, on fait un point sur l'actualité avec ce plus d'un million d'euros pour reconvertir deux friches industrielles en Mayenne, avec deux projets donc concernés, le renouvellement urbain du quartier de la gare d'Evron et la reconquête du site de la fonderie Pébéco à Port-Briet. Et plus d'un million d'euros, là aussi, a été déjà accordé pour la requalification de l'île au Val de Mayenne et le futur tiers-lieu Level à Laval, mais aussi pour l'étude préliminaire restructuration et renouvellement urbain du site Roulois, là c'est à Mayenne. Et puis à Vège, l'entreprise Les Fours à Chaux de l'Ouest, elle, est lauréate de l'appel à projet de l'ADEME pour la décarbonation des procédés industriels. L'objectif au niveau national, c'est de réduire les émissions de gaz de 275 tonnes de CO2 par an. À Mayenne, la charcuterie Thiol aura bientôt un repreneur. Il s'agit de la maison Prunier, un fabricant de charcuterie basé en Sarthe, qui a signé un accord d'achat de l'entreprise. Pour rappel, Georges Thiol avait été condamné pour tromperie sur la marchandise et pour harcèlement moral, respectivement en 2018 et 2019. Et l'entreprise mal en point était sous le coup d'une procédure de sauvegarde depuis février dernier. Plus de 600 maires appellent à la réélection d'Emmanuel Macron. Ils ont signé une tribune dans le JDD hier et disent avoir besoin de continuité et de stabilité. Parmi eux, on retrouve 6 maires mayennais, celui de Moulay, Frédéric Bordelais, de Côme, Dominique Coueffé, de Chantrenier, Françoise Duchemin, de Cosselvivien, Christophe Langouette, de Villaine-la-Juel, Daniel Lenoir et à Ballot, François Carnul. Ils saluent aussi la place donnée aux élus locaux pendant ce premier mandat présidentiel. Et puis si vous êtes à la recherche d'un emploi en restauration, en hôtellerie ou en agroalimentaire, Food Intérim 53 organise un job dating ce mercredi jusqu'à 21h dans ses locaux de Changé, situés dans le parc Technopôle. Plusieurs emplois en intérim, en CDD et en CDI sont à pourvoir. En football, un vaillant petit pousset termine son parcours en Coupe de France. Les footballeuses du Stade Lavallois se sont logiquement inclinées hier 4-0 contre Lorient, une équipe en R1, soit deux niveaux au-dessus d'elle. Et les footballeurs du Stade Lavallois jouent eux ce soir, ce sera face à Concarneau à 20h45. En France, un ménage sur quatre ne mange pas régulièrement pendant toute une journée. C'est l'un des chiffres sortis par le rapport sur la pauvreté. Diffusé il y a quelques jours par le Secours catholique, un ratio qui se retrouve aussi en Mayenne, où les personnes accompagnées par l'association ont un niveau de vie médian à 537 euros par mois. Pour les aider à se nourrir, des épiceries sociales sont mises en place un peu partout dans le département, selon les antennes, et notamment à Cran, où 73 familles sont inscrites. Sur le département, cela représente environ 3500 personnes, et je vous propose d'entendre le témoignage d'une d'entre elles.
On se dit, voilà, on n'arrive plus à finir la fin de mois, donc on se prive sur la nourriture. Et du coup, on se dit, vaut mieux pousser cette porte-là, manger que de... Après, les problèmes de santé arrivent facilement quand on ne peut pas manger équilibré, quand on ne fait qu'un repas par jour ou pas du tout. Donc, vaut mieux pousser cette porte-là et pouvoir manger, rester debout et pouvoir s'occuper de ses enfants, quoi. J'ai une petite fille, mais voilà. Donc, il y a des soucis de santé, donc beaucoup de choses ne sont pas prises en charge. Donc, derrière, il faut pouvoir assumer... payer les factures et puis venir ici pour pouvoir manger. Parce que travailler, je peux pas. Ma fille est souvent hospitalisée, souvent des soucis, souvent des problèmes, donc on peut pas. On paye moins cher qu'un magasin, mais on fait nos courses. À la fin, on donne notre argent et on repart avec nos courses. C'est pas un don, quoi. Pour le moral, pour tout, ça fait du bien, quoi. J'ai fait appel au Secours catholique pour payer une bouteille de gaz et une facture d'eau que je peux pas payer parce que je... Quand on accumule les dettes, les choses, après, ça devient trop... même psychologiquement, de se dire qu'on a des choses qu'on ne peut pas payer, c'est dur, quoi. Donc autant pousser cette porte-là et que ça ne se dégrade pas. Il faut pouvoir oser se dire, on a besoin. Au début, on se dit non, ça va aller. On, On va y arriver, et puis le mois prochain, et en fait on voit qu'on n'y arrive pas, et au lieu justement de s'endetter, d'avoir trop de dettes, vaut mieux venir ici, et comme ça au moins ça permet de rester la tête hors de l'eau en fait.
Marc Bonnet, donc président de la délégation de la Mayenne du Secours catholique. La situation du Covid donc a été un petit peu amortie par des aides, tout à fait, donc ça c'est un premier point. Par contre, d'autres choses sont arrivées par derrière, notamment l'arrêt des cantines, qui fait que beaucoup de familles ont été obligées de nourrir avec leurs propres deniers. Les dernières, déjà, on avait parlé donc des familles qui avaient un reste à vivre de 4 à 9 euros. Il faut savoir que cette année, ce reste à vivre a diminué un peu plus du part du Covid. Et derrière, beaucoup de gens sont obligés de venir chez nous. Plus de la moitié, donc, c'est des familles avec enfants. Et on se rend compte que dans ces familles, beaucoup travaillent. La moitié aussi pratiquement travaille. Mais les revenus du travail ne suffisent pas à s'en sortir. Et on s'aperçoit aussi qu'il ne ferait pas grand-chose de plus pour basculer justement au niveau de s'en sortir. Alors c'est une épicerie, donc c'est un endroit où on achète. Il n'y a rien qui est donné, tout est acheté. Et c'est acheté une valeur, un petit pourcentage donc de la valeur qui est demandée aux gens en participation. Cet argent est réinjecté pour l'achat de produits frais. On sort des conserves, on sort des additifs, on sort des compositions qui sont un petit peu trop exotiques. Et on revient à des choses qui sont normales pour une alimentation normale et saine de la personne. Les gens sont soucieux de leur alimentation, sont soucieux de la qualité de leur alimentation. Des fois, ils ne peuvent pas faire autrement parce que, au niveau du prix, c'est moins cher. Mais ce n'est pas un choix, c'est un imposé.
Marc Bonnet qui craint, comme les autres bénévoles, de recevoir un afflux de demandes d'ici quelques mois avec l'arrêt des aides de l'État. On va parler de ce nouveau roman de Jean-Philippe Goulet. Donc premier roman en tout cas de cet auteur mayennais, ça s'appelle Le Premier Cyrénien. Et ça, ce sera juste après avoir écouté I Wanna Be des Lehman Brothers. Her long white hair and her precious smile leave me puzzled all day. Her day, the shoes and her piercing gaze clear the fog on my way. I Wanna Be Lehman Brothers dans la JT du local sur l'autre radio. C'était évidemment ce que vous venez d'entendre et ce qui va venir tout de suite, c'est l'histoire du premier Sirénien, l'histoire du peuple des océans. C'est le titre de votre roman, votre premier roman, Jean-Philippe Goulet, bonjour.
Bonjour.
Et justement, on va, alors ce roman qui est, on est vraiment pile dans l'actu puisqu'il est paru il y a juste une semaine, j'imagine que c'est aussi une satisfaction qu'il soit, ça y est, enfin paru, enfin édité, et puis une impatience peut-être d'avoir les retours des premiers lecteurs. Comment est-ce que vous vivez la chose ?
Exactement, oui, c'est un événement pour moi, c'est très touchant, hein. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé pendant 3 ans et le voir maintenant disponible pour tout le monde, voilà, il m'appartient plus, il appartient au lecteur.
Et on va revenir justement sur comment vous est venue cette envie d'écrire finalement. Donc vous dites que c'est un projet qui a déjà été travaillé ou sur lequel vous avez travaillé en tout cas depuis 3 ans. J'imagine qu'on ne se lève pas un matin tout à coup en se disant « je veux écrire, écrire un roman ». Quel a été votre cheminement ?
J'ai toujours écrit de loisir, mais j'ai vraiment eu à cœur d'écrire cette histoire. Premièrement parce que je suis passionné d'océan, au niveau des animaux, tout ce qui forme les océans et les mers, et passionné de contes en même temps. Et donc, quoi de mieux que les sirènes pour allier ces deux passions.
Donc c'est venu comme ça, cette volonté en tout cas d'écrire autour des sirènes et de prendre le crayon. Est-ce que ça a été quelque chose de facile ? Parce qu'on peut avoir l'envie et puis après on se rend compte en faisant que c'est peut-être pas si facile ou que c'est différent en tout cas de ce qu'on pensait. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous ?
Eh bien, pour moi, je vais vous dire, ça doit être différent pour toute personne qui écrit. Moi, j'ai l'habitude d'écrire dans mon travail, donc ce sont des textes vraiment complètement différents. Mais le fait de prendre un stylo ou d'écrire à l'ordinateur, ça ne m'est pas inhabituel. En revanche, on a beau avoir l'idée de départ, après, entre avoir une idée de pitch et puis écrire 300 pages, voilà, il y a un fossé entre les deux et il faut vraiment faire marcher son imagination.
C'est ça qui a été vraiment, vous vous êtes appuyé là-dessus sur votre imagination. Est-ce que parfois on se sent un peu bloqué ou on n'a plus d'idées ? Ou comment est-ce que vous avez travaillé ? Est-ce que c'était, je dis n'importe quoi, hein, tous les jours un petit peu 2 heures ou peut-être même plus ? Ou c'était vraiment quand ça venait ? Comment est-ce que vous avez travaillé ?
Alors, ça n'a pas été tous les jours parce que pendant longtemps, j'ai été bénévole pour une association. Donc, en plus de mon travail, j'avais très peu de temps libre pour moi. Mais à partir du moment où je m'y suis vraiment mis, l'esprit cogite toujours dans la journée. Voilà, on a beau faire des choses et d'autres. Voilà, il est toujours en éveil, toujours à penser à ce projet-là et à des nouvelles idées. Et puis, à un moment donné, il faut se poser pour 1 heure, pour 2 heures, et puis on écrit, et puis le stylo part, voilà, et puis ça vient.
Et donc là, c'est le premier roman que vous publiez, mais est-ce qu'il y a eu d'autres nouvelles avant, d'autres choses que vous avez écrites sans forcément les publier ?
J'avais commencé un roman avant, dans le même univers exactement, et puis je me suis rendu compte, j'étais bloqué à un moment donné, je me suis rendu compte que si j'étais bloqué, c'est parce qu'il fallait que j'écrive en quelque sorte le préquel, une histoire avant celle que j'étais en train d'écrire, et c'est l'histoire du premier Sirénien.
Donc du premier Sirénien, justement, ce livre, on a tourné autour un petit peu, rentrons dans le vif du sujet, de quoi il parle donc le premier Sirénien, l'histoire du peuple des océans. Déjà ça donne un petit peu une idée, mais si vous pouvez nous en dire un petit peu plus.
Alors, sans tout dévoiler, je suis revenu aux sources de l'histoire de la petite sirène d'Andersen, qui a fait l'objet de beaucoup d'adaptations, pas toujours, il y en a eu des très populaires, mais pas toujours fidèles à l'œuvre d'Andersen, qui est plutôt dramatique. Pour finir, la petite sirène disparaît à la fin, contrairement à ce qu'on peut croire dans certaines adaptations où ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Non, c'est pas ça.
Notamment l'adaptation Disney. Hein,
exactement, exactement. Et donc, je suis revenu aux sources. Et puis, je me suis remis dans la peau de l'enfant que j'étais. Et je me suis dit, voilà, elle disparaît à la fin. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe après ?
Voilà. Et ensuite, d'accord.
Et ensuite, et voilà. Et l'histoire commence à ce moment-là, exactement.
Donc c'est ça qui vous a vraiment inspiré parce que vous étiez, donc oui, vous disiez passionné par les contes aussi, c'est ça qui vous a donné envie vous-même d'écrire votre propre histoire.
C'est ça. En fait, j'ai écrit l'histoire que j'aurais voulu lire. Voilà. Et je me suis appuyé sur tout ce qui fait l'histoire des contes un petit peu, et aussi sur mes connaissances sur les océans. Si bien que les personnages, les sirènes, les tritons qui évoluent dans un monde qui est le monde réel de la mer, avec des poissons réels. Dans l'histoire, il n'y a pas de crabes qui jouent des marimbas ou du tambour. Non, non, c'est voilà, les poissons sont les poissons, et ils vivent en osmose avec les siréniens, et le roman a aussi une des caractéristiques un petit peu pédagogiques pour les enfants, à savoir qu'il y a des caractéristiques des animaux qui sont expliquées au fur et à mesure des pages. Voilà.
Donc est-ce que ça veut dire que pour ça vous vous êtes aussi documenté pour que ce soit cette partie-là en tout cas soit au plus proche du réel ?
Exactement, exactement. Oui, ça fait partie de mon souhait, allier le ludique à la pédagogie.
Puisque évidemment, donc on est dans une histoire fantastique, donc tout n'est pas réel, mais en tout cas toute cette partie-là autour des poissons, du monde des océans, c'était aussi votre passion. Vous vous êtes dit là, on va en profiter.
C'est ça.
Vous-même, vous avez appris des choses peut-être sur certains poissons ou certains.
Ah oui, oui. Et puis oui, tout à fait. Je savais pas ça de moi-même. Et j'ai autant de passion, on va dire, pour l'univers d'écriture, par exemple de J.K. Rowling qui a écrit Harry Potter, ou de Tolkien qui a écrit le Seigneur des Anneaux, que pour le travail d'un océanologue comme François Sarano, qui étudie les cachalots, qui étudie beaucoup d'animaux, les requins, beaucoup d'animaux marins. Et donc, allier ces deux passions au sein d'un même roman, moi, ça me faisait plaisir.
Donc là, effectivement, c'est vraiment, j'ai l'impression, la fusion des deux, en tout cas. Vous parlez de certaines références littéraires. Là, l'idée, c'est que ce soit un livre qui s'adresse à qui plutôt ? Est-ce qu'on est sur des grands enfants, des ados ou des adultes, ou les trois peut-être même d'ailleurs ?
Tout à la fois, pourquoi pas. Le livre est mentionné en quatrième de couverture à partir de 10 ans, parce que l'écriture est assez simple, voilà, ça se lit facilement. Après, c'est un petit peu comme certains des romans que je citais tout à l'heure, Harry Potter, Narnia, sans vouloir me comparer au talent de ces auteurs, mais ça peut se lire à tout âge, voilà.
Donc avec peut-être différents degrés de lecture aussi, on ne va pas apprécier les mêmes choses si on est un adulte ou si on a tout juste 9-10 ans et qu'on commence cette lecture.
Oui, tout à fait, il y a différents degrés de lecture. Voilà, il y a le conte purement fantastique, voilà, si on est un enfant. Après, il y a des valeurs, des thèmes qui sont abordés, comme les relations parents-enfants. Les valeurs de tolérance, de solidarité, de confiance et même un petit peu de respect aussi. Et puis on aborde aussi la place des femmes dans la société. Vous voyez, il y a un spectre assez large.
Et ça, c'était volontaire dès le départ ou c'est finalement en écrivant, vous vous êtes rendu compte que, sans vraiment le vouloir, dans votre écriture, ça abordait tous ces thèmes que vous venez de citer ?
C'était volontaire. Oui, j'ai vraiment souhaité faire de la pédagogie un petit peu, comme ce livre peut être lu par des enfants comme par des adultes, ça peut, si les deux dans une famille lisent le livre, ça peut favoriser le dialogue entre les deux. J'aime bien cette idée-là.
C'était aussi ça, l'idée de pouvoir échanger autour de ce livre.
C'est ça.
Sachant que justement, dans la petite présentation que vous m'avez fait parvenir de ce livre-là, vous disiez qu'il y a vraiment une grande question qu'il traverse, en tout cas, c'est: qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour aller au bout de ses rêves ? Et ça, forcément, ça fait réagir et chacun a un avis là-dessus.
C'est ça. La petite sirène elle-même voulait aller sur Terre pour rencontrer son prince et avoir une âme immortelle. Donc, ça n'a pas tout à fait réussi, mais que vont devenir les autres ? Que vont devenir ses sœurs, sa famille ? Et dans l'absolu, comment va réagir tout le monde à cette quête ? Et vous-même, le lecteur est amené à se poser la question aussi, et le but du livre, c'est quand même de dire allez, faites tout ce que vous pouvez pour aller au bout de vos rêves.
Donc quand même pas mal de petits messages plus ou moins subliminaux à travers ce livre.
Exactement.
J'ai l'impression que vous l'avez écrit en pensant vraiment à quelqu'un en particulier, ou en tout cas un lecteur type peut-être un peu jeune, pour qu'il y ait aussi... Il pense à ça, le fasse réagir sur tout ce qu'on vient de dire, hein, aussi bien que ce soit le fond des océans, la préservation, le respect et cette idée de qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour atteindre ses objectifs.
Oui, tout à fait. Le livre, à la base, je l'ai écrit pour mes enfants. même s'ils sont un peu grands maintenant, parce que j'ai mis un petit peu de temps. Mais voilà, c'est le but, c'était pour eux au départ. Et si ça peut être vraiment assez intéressant pour tous les enfants d'aborder ces thèmes-là, je pense.
D'aborder ce thème-là, donc à travers ce livre. Et puis donc ce livre, on l'a dit, il est mayenné par l'écriture, mais il est aussi mayenné par la couverture de ce livre. Vous avez fait appel à une illustratrice mayonnaise, lavalloise, je crois, Emma Transon, si je prononce bien
c'est
son
bien
nom. Vous la connaissiez avant, vous l'aviez déjà rencontrée. Comment s'est fait cette collaboration ?
Oui, Emma, c'est une jeune illustratrice que je connais depuis longtemps. On n'avait jamais eu l'occasion de travailler ensemble. Et là, elle a intégré une école de cinéma d'animation à Nantes. Et donc, je me suis dit, qui mieux, en plus, et je sais qu'elle aime bien ce genre d'histoire, qui mieux qu'Emma pouvait essayer de dessiner la couverture du livre. Et j'ai fait appel à elle, on a échangé, l'histoire lui a plu, et puis elle m'a dit banco, quoi. Et en fait, le résultat est magnifique, quoi, la couverture du livre. J'en suis très fier.
Puisque, bon, après, évidemment, on est à la radio, on ne peut pas trop voir, mais c'est vraiment une couverture bleue où on est dans le fond des océans avec trois, ce que je suppose être des siréniens, puisque moi, je n'ai pas lu le livre, mais ce que je suppose être des siréniens. Justement, est-ce que vous lui aviez confié, on va dire, des directions à prendre, ou vraiment vous lui avez dit, je te laisse lire le livre et puis après faire tes propositions ?
Je lui ai raconté la trame sans rentrer dans les détails parce que ça aurait été beaucoup trop long, mais puisqu'il fait quand même presque 300 pages, mais je lui ai raconté la trame de l'histoire, je lui ai montré des photos aussi, puisqu'il y a des sirènes professionnelles qui existent, comme Anna Mermaid, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une Australienne qui vit aux États-Unis et qui est la première sirène professionnelle et qui travaille avec des photographes, qui a fait des magnifiques photos, et notamment une que j'ai mise sur la page Facebook et le compte Insta pour montrer aux lecteurs, voilà, la façon de la photo qui avait inspiré la couverture. Et d'ailleurs, Anna Mermaid a elle-même dit qu'elle était très honorée de cette inspiration. En fait, oui, ce sont les siréniens que l'on voit en train de remonter à la surface. Voilà, c'est sans être trop figuratif, voilà, c'est très inspirant.
Donc ça correspond bien en tout cas à l'idée que vous vous faisiez de ce livre et de la manière de l'illustrer dès le départ, de donner envie au lecteur de le prendre. Si justement parmi les auditeurs, ça y est, il y en a qui se sont dit j'ai envie de lire cette histoire, de découvrir l'histoire du premier sirénien, où est-ce qu'on peut se le procurer ?
Alors, il est disponible sur Amazon, donc vous pouvez taper Le Premier Sirénien ou Jean-Philippe Goulet sur Amazon.
Sur vos réseaux sociaux, j'imagine qu'on peut retrouver aussi les liens.
Voilà, et les liens sont aussi sur les réseaux sociaux, donc il y a la page Facebook qui s'appelle Jean-Philippe Goulet Auteur, ou le compte Insta aussi, Jean-Philippe Goulet Auteur, les liens sont dessus.
Pour tout retrouver, peut-être bientôt dans des librairies mayonnaises, mais pas encore en tout cas.
Bientôt, je l'espère.
Très bien. Et puis justement, là, traditionnellement, on fait une petite pause musicale après l'interview. Et là, vous nous avez proposé une musique qui a un peu accompagné l'écriture de ce roman, c'est ça ?
Exactement. Et ça me fait très plaisir que vous les diffusiez. C'est issu d'un album, d'une symphonie composée par Ibrahim Malouf. Et ce livre, cette musique a vraiment accompagné mon écriture. Je ressentais vraiment, il y a beaucoup de chœurs, comme si c'était les chœurs des sirènes, puisque les sirènes chantent bien entendu. Et à la fois, donc ça peut être très calme, très dynamique comme musique, et je trouve que ça collait parfaitement à l'histoire.
Eh ben, on va pouvoir justement en écouter un titre dès à présent. Alors ça s'appelle Movement 3, avec mon superbe accent anglais. C'est donc bien d'Ibrahim Malouf, et donc c'est l'une des musiques qui vous a accompagné dans l'écriture de ce roman, Le Premier Sirénien. Merci beaucoup Jean-Philippe Goulet d'avoir été avec nous pour en parler.
Merci à vous.
Thank you.
Vous l'avez entendu, c'est très joli, c'est extrait de l'album Levantine Symphony No. 1 d'Ibrahim Malouf, donc qui a accompagné l'écriture de ce livre, Le Premier Cyrénien. On va désormais passer à notre chronique, à notre cycle de reportages réalisé avec les radios des Pays de la Loire, les radios associatives des Pays de la Loire regroupées dans la Frappe. Et aujourd'hui, on part du côté d'Herbignac, en Loire-Atlantique, et on va parler de l'association Panier Presqu'île qui permet aux particuliers un accès facile à des produits de la ferme. C'est un reportage réalisé par Cécile Roland de Sun qui a rencontré Laurie Joanneau et Alexandre Bellard pour mieux comprendre le fonctionnement de Panier Presqu'île, un drive fermier qui se porte très bien.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Permettre un accès facilité à des produits fermiers pour les particuliers et offrir des débouchés supplémentaires aux producteurs locaux, c'est le principe du drive fermier Panier Presqu'île en Loire-Atlantique. Lancé il y a 13 ans, l'association livre essentiellement autour de Guérande sur plusieurs points de distribution. Direction Herbignac, où Panier Presqu'île est hébergé par les Vergers du Littoral, Laurie Joanneau est salariée et gérante de Panier Presqu'île.
Ils ont commencé avec 6 producteurs, des produits un peu phares comme la viande, des légumes, puis des fruits. Au tout début, ils se sont aussi rendus compte que chaque producteur livrait ses produits un peu partout. C'est là qu'ils se sont dit, il faut trouver une solution aussi pour éviter de se retrouver tous sur la route. Nous, le fait de Panier Presqu'île, c'est que justement, on reçoit les produits à un seul endroit et après, c'est nous qui dispatchons tous les commandes, en fait. Là, aujourd'hui, on arrive à 21 producteurs. Alors, on a à peu près plus de 450 produits différents. Nous, notre but aujourd'hui, c'est que les gens puissent vraiment choisir ce qu'ils veulent. Il n'y a pas d'obligation, en fait, de commander toutes les semaines et pas non plus de montant à respecter. C'est vraiment, chaque semaine, ils choisissent vraiment leur panier, quoi. Les producteurs font partie de Terroir 44, donc qui est une association qui se situe à Nantes. Moi, là, tous ceux que j'ai fait rentrer depuis un mois ou deux, avec mon collègue, on a été les visiter. Et nous, c'est important aussi d'avoir ce lien-là. Et c'est important de voir aussi comment ils travaillent. Parce qu'après, c'est nous qui avons cette relation-là avec les clients. Donc, avant, il y a vraiment une démarche aussi de... On s'interroge, on se renseigne sur leur façon de faire et après on dit que ça peut être intéressant et pourquoi pas, c'est là qu'on rajoute d'autres produits.
Il fait combien là ?
Là il fait...
Alexandre Bellard, le deuxième salarié de l'association Panier Presqu'île.
Il fait 3 degrés 2. Là c'est 2 degrés à peu près. C'est mieux, hein.
Donc là, on est sur du produit laitier.
Là, c'est des produits de la ferme des Poulots à Saint-Marc.
À Saint-Nazaire.
Exactement.
Donc vous, du coup, vous arrivez le jeudi matin vers quelle heure, en gros ?
Moi, je commence dans une autre ferme où je cherchais le camion et je cherchais des produits. C'est la ferme du Bois de Boule. Je cherchais les œufs, le lapin. Je suis là-bas vers 9h. Parce que mercredi, je viens aussi pour préparer tout ce qui est produits secs. On a des confitures, des jus de fruits, des terrines aussi, du vin, du cidre, du poiré, de la bière. Tout ce qu'il y a besoin d'être en frigo, on a du vinaigre, des huiles.
Donc le jeudi matin, c'est aussi un moment où les producteurs viennent déposer leurs produits, c'est ça ?
Ah oui, la majorité. Il y a juste le vendredi, il y a une dernière personne qui vient, c'est pour le pain, pour qu'il soit frais. Puis dès que je me fais livrer le pain, je pars après en tournée.
Alors là, en ce moment, en une semaine moyenne, on fait à peu près 80 à 90 paniers. Alors avant le confinement, on était plus à 60-70 paniers. Pendant le confinement, on a explosé. On était monté vraiment à 280 paniers en une semaine. Et là, ça a été très compliqué. On a dû embaucher pour pouvoir nous aider à livrer, nous aider à préparer. Et puis, les producteurs aussi étaient débordés.
Comment ça vit, Panier Presqu'île ? Ce sont les producteurs qui versent une part ? Comment ça se passe ?
Les producteurs laissent une commission. Et ça permet de payer donc les salariés. Et puis, cette année, on a acheté un autre véhicule. Parce qu'avec le confinement, un seul ne suffisait pas.
Est-ce que vous êtes aidés, que ce soit au niveau européen, État, collectivité ?
Non, on n'a jamais...
Est-ce que vous avez tenté monter des dossiers ?
Là, on cherche justement à essayer de trouver des dossiers parce que On a un projet justement à cause du confinement où on a pris beaucoup plus d'ampleur et beaucoup plus de place. Et maintenant, ce qui serait bien, c'est que l'association prenne son envol. Et donc, on était à la recherche d'un local. Finalement, on a fini par trouver. Et voilà, en fait, il va y avoir des charges en plus. Et du coup, on chercherait peut-être à se faire aider un petit peu pour pouvoir finaliser ce grand projet de local qui peut être important et un tournant dans l'association.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage de Cécile Roland de Sun.
Merci pour ce nouveau reportage de ce cycle Pensée locale. Évidemment, vous pouvez le réécouter sur l'autreradio.fr. Et puis la prochaine chronique, ce sera non pas jeudi de cette semaine, mais dans 10 jours, jeudi de la semaine prochaine, pour un nouveau reportage autour du Pensée locale. C'est la fin de notre émission L'agité du local, là aussi. À suivre à l'antenne à 19h, il y aura Solénoïde et ce sera suivi à 20h de la discothèque de Joël, notre programmateur. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.